de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire aujourd'hui et mon Indonésie, l'arbre suivante, magazine culturel, l'Indonésie en couleur et magazine musical. Voilà notre programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le ministre des Affaires maritimes et de la pêche a convenu d'interdire dans les exportations de graines de homard. Le Kalimantan du Sud a développé le parc forestier de Sultan Adam pour devenir une attraction touristique dans le monde. Selon l'ancien directeur général, le gouvernement doit prioriser l'approvisionnement national en charbon. Le ministre des Énergies et des Ressources minérales demande d'achever la transition pour prendre la charge le bloc Rokan en 2020. L'éclipse solaire d'Anu est visible parfaitement à Aceh. La plupart des victimes de l'attaque du Burkina Faso sont des femmes. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le ministre des Affaires maritimes et de la pêche, M. Edi Prabowo, a convenu que l'interdiction d'exporter des graines de homard continuera d'être appliquée en demandant aux pêcheurs de réactiver la culture du homard. Il préfère se concentrer sur la culture du homard jusqu'à ce qu'il soit suffisamment gros et pour être consommé ou exporté. Le coordinateur national de Destructive Fishing Watch d'Indonésie, M. Muhammad Abdi Suhufan, a déclaré jeudi à Jakarta que la controverse sur le discours de l'exportation des graines de homard était improductive. Pour développer davantage la culture d'exportation du homard, il a conseillé au ministre Edi Prabowo de fournir des incitations aux producteurs de homard afin que ces activités puissent se développer au pays sans exporter de semences. Abdi a déclaré qu'un certain nombre d'incitations peuvent être fournies, notamment en ce qui concerne l'assistance technique et le placement d'officiers ou de personnel du ministère des Affaires maritimes et de la pêche qui comprennent les techniques de culture afin de fournir une assistance à des groupes agriculteurs. Le gouvernement provincial de Kalimantan du Sud fera du grand parc forestier de Sultan Adam en une attraction touristique de standard international. Ce parc sera construit diverses installations touristiques afin d'attirer les touristes nationaux et étrangers. Dans ce parc sera construit diverses installations et le chef de service forestier du sud de Kalimantan, M. Hanif Faisal Nurefik, a déclaré jeudi que la région de ce parc, qui est située dans deux districts, à savoir Banjar et Tanah Laut, avec une superficie de 112 000 hectares, possède de nombreux sites potentiels à développer en attraction touristique et de classe internationale. Certains sites touristiques naturels qui ont été développés comprennent Mandiangin et le pic du parc forestier de Sultan Adam, le réservoir Riamkanan Matang Keladan, un groupe d'îles dans le réservoir, le pic de Tahura, le parc Kiram, les vallées et aussi le pic de Kahung. L'ancien directeur général des minéraux et du charbon, M. Simon Félix Sembiring, a déclaré que le gouvernement devait donner la priorité à l'approvisionnement national en charbon. Selon lui, lors d'un discours au bâtiment de l'Assemblée consultative du peuple jeudi à Jakarta, a regretté qu'il y ait eu des exportations de charbon vers des pays lors de l'augmentation de la demande intérieure comme principal combustible pour les sources d'énergie. Selon lui, les sociétés minières doivent transformer et purifier leurs produits miniers avant de les exporter. Il a souligné que le gouvernement doit être prudent dans l'élaboration de politiques juridiques afin de ne pas nuire à la nation elle-même à long terme. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le ministre de l'Énergie et des Ressources Minérales, M. Arifin Tasrif, a demandé à PT Pertamina d'accélérer le processus de transition de gestion du bloc Rokan depuis Chevron Pacific Indonesia. Il espère que le processus de transition pourra être achevé bientôt l'année prochaine. Arifin Tasrif a déclaré jeudi à Jakarta qu'il avait demandé d'effectuer immédiatement le processus de forage pétrolier et gazier à ce bloc. L'accélération doit également être faite afin de maintenir le niveau de production du bloc Rokan lors de la maturité du transfert de gestion en 2021. En plus d'accélérer le transfert de gestion, il a également demandé à Pertamina de préparer immédiatement des fonds pour investissement de forage. Le ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales a décidé de nommer PT Pertamina en tant que nouvel entrepreneur pour la zone d'exploitation pétrolière et gazière de Rokan à Riau du 8 août 2021-2041. Le bureau régional du ministère de la Religion de la province d'Aceh, en collaboration avec le gouvernement de la région de Simelu, a effectué une surveillance de l'éclipse solaire annulaire dans la cour de la mosquée Baitur Rahman Aceh, et les résultats de ce phénomène naturel ont été parfaitement visibles dans les îles. Le chef du bureau régional du ministère de la Région d'Aceh, A.M. Daoud Paquet, sur le site d'observation après avoir effectué la prière Kusuf, comme l'a indiqué jeudi un communiqué de presse reçu par Radio République Indonésia, l'éclipse solaire de l'anneau était parfaitement visible à Aceh avec une durée de plus de 2 minutes. Il a mentionné l'éclipse qui a traversé le ciel de Simelu à 11h53 minutes 51 secondes jusqu'à ce qu'elle se termine à 11h56 minutes 54 secondes, et le pic de l'éclipse solaire à 11h55 minutes 20 secondes. Daoud Paquet a expliqué que le ministère de la Région d'Aceh avait préparé 10 télescopes et 500 lunettes pour observer l'éclipse qui s'est produit le 26 décembre 2019, coïncidant avec le 15e anniversaire du tsunami d'Aceh. La plupart au Burkina Faso a tué 35 civils, presque toutes les victimes des attaques les plus meurtrières pendant les 5 dernières années sont des femmes. 7 soldats et 80 hommes armés ont également été tués lors d'une double frappe sur la base militaire et dans la ville Arbinda, la province de Soum. Le personnel des forces armées du Burkina Faso, dans sa déclaration rapportée par Al Jazeera jeudi, a déclaré un grand groupe de terroristes ont simultanément attaqué des bases militaires et des populations civiles à Arbinda. Le Burkina Faso, qui borde le Mali et le Niger, est fréquemment touché par des attaques. Depuis 2015, des centaines de personnes ont été tuées dans les violences qui se sont propagées dans la région du Sahel. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Chers auditeurs, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et pour le titre, les difficultés de la Turquie à gérer les réfugiés syriens. 8 ans d'éclatement d'un conflit interne en Syrie contre le président Bachar al-Assad, le président syrien qui a répondu aux manifestations dans son pays très dur pour gérer les manifestants. En juillet 2011, des transfuges de l'armée ont annoncé la formation de l'armée syrienne libre, un groupe rebelle visant à renverser le gouvernement Bachar, et la Syrie a commencé à se lancer dans une guerre civile à ce jour, qui a ensuite impliqué des pays au pouvoir important, les États-Unis et la Russie. Selon les Nations Unies, plus d'un mille civils ont été tués. Pendant ce temps, des centaines de milliers de personnes ont été déplacées depuis le conflit. À ce jour, la Turquie a accueilli plus de 3,6 millions de Syriens, qui constituent la plus grande population de réfugiés au monde. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré dimanche que la Turquie ne pouvait pas gérer la nouvelle vague de réfugiés et a exhorté la Russie à arrêter l'attaque contre Idlib. Depuis jeudi, la délégation turque a rencontré des diplomates russes pour trouver une solution pour résoudre le problème syrien. Selon la Turquie, en particulier le problème des réfugiés syriens ne peut être laissé à un problème qui doit être géré par la seule partie turque. S'il n'est pas contrôlé ensemble, il deviendra un problème pour les pays européens. Concernant des réfugiés syriens, n'est en fait pas aussi simple que de gérer la migration de personnes qui recherchent un endroit sûr. Bien que la Russie et la Turquie aient discuté ces derniers jours de la manière de fournir une zone sûre aux réfugiés syriens qui augmentent de plus en plus à la frontière turque. Mais en réalité, et la communauté internationale doit certainement souligner que l'attitude de la Turquie et de la Russie à l'égard de la Syrie affectera le nombre de réfugiés là-bas. L'attitude de la Russie et de l'Iran a soutenu les efforts d'Assad pendant le conflit syrien, tandis que la Turquie soutient les rebelles syriens qui combattent Assad entraînera très clairement un nombre encore plus élevé de réfugiés à l'avenir. Si elle prend sérieusement des mesures fermes pour résoudre ce problème de réfugiés, la première étape doit être franchie. Comment la Russie et la Turquie s'abstiennent-elles de ne pas s'impliquer dans le conflit interne syrien? Serge Ritter, c'était le commentaire pour ce soir. Chers amis de longtemps, voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement. Le premier porte-avion a commencé à fonctionner le 27 décembre 1922. Le 27 décembre 1922, le porte-avion appelé Hoso a commencé à fonctionner. Ce porte-avion a servi à la marine japonaise comme moyen d'acquérir leurs avions militaires. Hoso est répertorié comme le premier porte-avion au monde construit et opérant pour les intérêts militaires d'un pays. Depuis ce moment, de nombreux pays ont commencé à construire des porte-avions pour des missions militaires. En plus de fonctionner comme un mode de transport par eau, les navires sont également utilisés comme outils de défense. Les cuirassés sont généralement conçus à l'aide de diverses armes pour protéger certaines zones des attaques ennemies. Ainsi, de nombreux pays tentent de concevoir des navires avec des armes complètes. En outre, la fonction du navire a également été améliorée, passant d'un cuirassé à un porte-avions afin de pouvoir accueillir des avions de chasse à des fins militaires. L'autre information est sur la Banque mondiale est créée le 27 décembre 1945. La Banque mondiale a été créée le 27 décembre 1945 après la ratification internationale de l'accord conclu lors d'une conférence qui a eu lieu du 1er au 22 juillet 1944 à Bretton Woods, New Hampshire, aux États-Unis. La conférence de Bretton Woods est une conférence lancée par le président Franklin Delano Roosevelt pour surmonter conjointement toutes les difficultés causées par la Seconde Guerre mondiale sous la forme d'une coopération internationale dans le domaine économique. Le siège de la Banque mondiale se trouve à Washington DC aux États-Unis. La Banque mondiale est une institution financière internationale qui accorde des prêts aux pays en développement pour des subventions en capital. L'objectif officiel de la Banque mondiale est la réduction de la pauvreté. Nous finissons le sort du jour avec l'événement. L'ancien premier ministre pakistanais Benazir Bhutto a été tué le 27 décembre 2007. Le 27 décembre 2007, Benazir Bhutto a été blessé par balle au cul et à la poitrine par un tueur qui a ensuite fait exploser un attentat suicide à Rawalpindi. Au moment de sa mort, elle était le chef du parti d'opposition pakistanais qui faisait campagne pour les élections générales de 2008. Sa mort a été annoncée sur le chemin de l'hôpital général de Rawalpindi. Environ 21 personnes ont été confirmées mortes à ce moment. Deux mois plus tôt, une tentative de meurtre similaire n'avait pas été réalisée. Serge Tor, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Yeah.
Dirimu tak pernah ingin menyatakan Mungkin ternyata diriku tak cukup indah untuk engkau cinta.
cukup indah untuk engkau cinta. Ternyata dirimu tak pernah ingin menyatakan cinta. Mungkin ternyata diriku tak cukup indah untuk engkau cinta.
C'était une chanson intitulée Pourrait-il être beau, chantée par Syaharani. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde. Voici donc mon Indonésie.
C'est que j'aime l'antenne, c'est le temps maintenant pour nous de vous présenter mon Indonésie. Et pour le titre, le gouvernement accélère la mise en œuvre du programme sur le biodiesel. Le président indonésien Joko Widodo a lancé la mise en œuvre du biodiesel de 30% ou B30 à Jakarta lundi le 23 décembre à la station de ravitaillement de Pertamina dans le sud de Jakarta. Le B30 est un programme de l'Eprambrut ou CPO de 30% dans le carburant du type diesel. Le président Jokowi, lors de l'inauguration, a déclaré « Après B20, mettons B30, puis plus tard B40 et B50. » Selon le président, l'Indonésie souhaite réduire sa dépendance vis-à-vis des importations de carburant diesel. Selon le président, l'Indonésie est également en paix à fort potentiel en huile de palme. Et cela peut être pour les substituts de l'énergie du diesel. Donc, B30 peut être utilisé pour l'énergie remplaçant le diesel. Ce programme est l'élargissement de la politique précédente, B20, afin de réduire le déficit commercial et le déficit du compte courant. Selon le président, le grand potentiel du palmier à huile doit être utilisé pour soutenir la résistance et l'indépendance énergétique nationale. Le président Jokowi a déclaré que la mise en œuvre du B30 créerait également une grande demande intérieure de CPO. De plus, ce programme aura un effet multiplicateur sur 16,5 millions d'agriculteurs et planteurs indonésiens de palmiers à huile. Cela signifie que le programme B30 aura un impact sur les petits et moyens agriculteurs, les petits exploitants agricoles qui produisent de l'huile de palme ainsi que les travailleurs qui travaillent dans les huileries de palme. Selon le président Jokowi, après la fin du programme, l'Indonésie ne sera plus facilement mise sous pression par les pays, en particulier à travers les campagnes négatives menées par plusieurs pays vers les exportations indonésiennes d'huile de palme brute CPO. Le président Jokowi a ajouté que d'autre part, l'accélération du programme sur le biodiesel a été menée pour trouver de nouvelles sources, de nouvelles énergies renouvelables afin que l'Indonésie puisse libérer de la dépendance aux énergies fossiles. Selon le président, le développement de nouvelles énergies renouvelables prouve également l'engagement de l'Indonésie à protéger la planète, à maintenir une énergie propre en réduisant les émissions de gaz carbonique et en améliorant la qualité de l'environnement. Pendant ce temps, le ministre des Entreprises d'État, Erick Thohir, a apprécié la réalisation de l'accélération de l'utilisation du B30 qui a été inauguré lundi par le président Joko Widodo. Selon Erick Thohir, avec le lancement de B30 puis l'indépendance, l'Indonésie, à l'égard des importations de pétrole et de gaz, serait réduite et le pays à compétitif et plus efficace. Serge Ritor, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Yang aku tunggu, apakah kau rindu? cintamu padaku. Sungguh ku tak mau kau jauh dariku. Maafkan segala raguku padamu. Kini ku sadari cinta yang ku cari.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Vous avez écouté tout à l'heure une chanson de Tompi intitulée « L'amour que je cherche ». Et soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde. Chers amis, pour l'heure suivante, voici Magazine Culturel. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter Magazine Culturel. Pour ce soir, nous allons présenter le culinaire de l'île Bouton dans le sud-est de Sulawesi. Bouton est une île au sud-est de Sulawesi célèbre pour sa production d'asphalte. Bouton est inclus dans la zone administrative de la province de Sulawesi du Sud-Est. La plus grande ville de cette île est Bau-Bau, qui est la 8e plus grande ville à Sulawesi et la 2e dans la province de Sulawesi du Sud-Est. De toutes les terres de régence Bouton, 42,08% sont utilisées pour les agricultures. Le plus largement est planté de maïs. Par conséquent, pendant la saison du maïs, la cuisine kambewe devient le menu principal pour les habitants de l'île de Bouton. Ce plat utilise 90% des ingrédients en utilisant du maïs jeune qui est transformé avec d'autres ingrédients alimentaires. Le kambewe est une cuisine traditionnelle de l'île de Bouton qui existe depuis des centaines d'années. Le kambewe est une sorte de collation et n'est généralement pas commercialisé sur l'île de Bouton. Ce plat est généralement consommé lors d'événements familiaux ou lors de grandes célébrations, comme l'Idul Fitr et le propriétaire cuisineront en grande quantité et les résidents des environs feront la queue pour manger la cuisine. Les propriétaires nourriront généralement les invités qui viennent et d'habitude seulement la première bouchée comme symbole. Au lieu de cela, les visiteurs donneront généralement de l'argent sincère au propriétaire. Par conséquent, la plupart des aliments de bouton ne sont pas commercialisés. Pour faire de cambewe n'est pas trop difficile. D'abord, la balle de maïs est nettoyée des épices de maïs. Cette balle de maïs deviendra plus tard un lieu de récapitulation de cambewe. Et ensuite, préparez environ 50 grains de maïs, de cassonade au goût et de noix de coco râpées au goût. Le jeune maïs sera râpé ou mélangé jusqu'à consistance lisse. Et après, le mélange de maïs est mélangé avec de la cassonade et de la noix de coco râpée. Après le plat, le mélange de maïs a été mis un par un dans la peau de maïs, puis cuit à la vapeur jusqu'à cuisson, et ensuite il est servi. Cambewe a un goût distinctif. En plus de goût sucré de jeune maïs, il y a aussi un goût de noix de coco mélangée dans ce plat. Certains disent que cambewe sera plus délicieux lorsqu'il sera consommé avec d'autres menus alimentaires, comme avec de la sauce chili et avec de la sauce de poisson. Si vous voulez prendre des vacances et profiter de la beauté des sites touristiques à l'île de Bouton ainsi que découvrir une variété de délices culinaires de l'île de Bouton, vous devriez venir quand il y a des célébrations, parce qu'à ce moment-là, on vous servira généralement une variété de plats qui sont rares et non commercialisés. Chers amis, c'était le magazine culturel pour aujourd'hui. Merci à tous et au revoir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. Samaku
selalu setia menunggu. Oh, detak jantungku bergetar makin dalam karenamu. Sejujurnya ku tak tahan menahan sepi sendiri. Satu yang ku tahu, ku rindu padamu.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'était une chanson intitulée Notre amour chantée par Totong Wicaksono. Vous êtes toujours avec nous, la voix de l'Indonésie pour le monde. Et pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur. Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'Indonésie en couleur et dans cette édition, je vais présenter des informations sur la plage de Plengkung choisie comme site de la Ligue mondiale de surf. La plage de Jilin ou de Plengkung est l'une des destinations touristiques maritimes à Banyuwangi, Java Est. Récemment, la plage de Plengkung a été choisie comme site de la 3e série de la Ligue mondiale de surf ou World Surf League. Cette activité est tenue du 4 au 14 juin 2020. Banyuwangi sera l'un des hôtes de 11 séries de compétition de surf l'année prochaine. C'est une fierté parce que World Surf League est un championnat prestigieux comme le championnat de Grand Chelem et tennis. Le World Surf League Championship Tour est la plus prestigieuse ligue de surf dans le monde. Elle comprend 11 compétitions de surf qui commencent habituellement d'avril jusqu'à décembre chaque année sur diverses plages dans le monde. Cette année, cet événement prestigieux se tiendra en Australie, aux États-Unis, au Brésil, à Hawaï, à Tahiti, en Afrique du Sud, au Portugal et en France. Abdullah Aswar Anas, le régent de Banyuwangi, a expliqué que de nombreux pays souhaitent vivement devenir l'hôte. Il a dit qu'il était reconnaissant Banyuwangi a été choisi comme la Ligue mondiale de surf. On peut utiliser cet événement comme un moment pour faire écho au tourisme de Banyuwangi, de Java de l'Est et de l'Indonésie. Selon M. Anna, cet événement a été classé dans la première ligue sportive préférée de la population mondiale après le football et le basketball. En fait, les discussions sur la Ligue mondiale de surf Championship Tour dans le cyberspace sont toujours en mesure de battre le MotoGP qui n'est qu'au 9e classe. Le responsable de la Ligue mondiale de surf, un Asie, Stephen Robertson, a expliqué qu'on avait choisi Banyuwangi en raison de l'attention considérable portée par le gouvernement local au développement du tourisme sportif. Il a expliqué qu'on a choisi Jilin parce qu'il a de bonnes vagues, que son emplacement dans le parc national est magnifique. Selon lui, cette place sera une histoire intéressante pour les surfeurs du monde. Ils vont surfer sur la plage au milieu d'une belle forêt. Ce type d'expérience sera une histoire positive parmi les surfeurs dans le monde. La place de Plengkung se trouve dans la région du parc national de Alas Purwo. L'UNESCO a désigné cette forêt comme géoparc national et réserve mondiale de la biosphère. On connaît Jilin comme l'un des meilleurs sites de surf dans le monde en raison de ses vagues distinctives, larges et formant un tunnel. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie à Jakarta.
Oh,
C'était la quatrième chanson intitulée « Pour toi » chantée par Abdul. Chers amis, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie, de l'Indonésie pour le monde. Et pour l'heure suivante, avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons présenter magazine musical. Et cette fois, nous allons présenter une chanson de Ambon. Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, comme d'habitude, avant de terminer cette mission, nous allons présenter un magazine musical. Et cette fois, je présenterai une chanson d'Ambon intitulée Ole Sio. Cette chanson raconte l'histoire d'Ambon qui a vraiment raté sa ville natale. Il se sent étrange à sa place actuelle parce qu'il n'y a personne qu'il connaissait et pouvait l'aider. Il se souvient de la beauté de la plage d'Ambon et souhaite y retourner immédiatement. Bon, cher ami, écoutons maintenant une chanson intitulée « Ole Sio » chantée par Fika. Bonne écoute et au revoir.
Thank you. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Pasang mata telinga
chers auditrices auditeurs dans le monde entier, c'était l'émission quotidienne en français pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.